Alors, bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à notre série balado Y voir clair. Un balado où on parle de déficience visuelle, on tente de répondre aux questions que plusieurs se posent et surtout d'éclairer certains aspects de cette réalité. Alors, je suis Nathalie Barrette, je suis voyante et je représente ici les auditeurs qui, comme moi, ont envie de mieux comprendre. Et j'ai le plaisir d'être, comme toujours, en compagnie de ma partenaire et maintenant amie et spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, Bianca Lucier d'Alpé. Salut ma belle Bianca, comment tu vas?
Bonjour Nathalie, ça va bien?
Oui?
Oui, grosse semaine au travail.
Ah, t'es sérieuse, hein?
Oh, je me suis attaquée à deux choses cette semaine. Entre autres, je dois apprendre à utiliser un bidule qui s'appelle le Braille Sense 6. En tout cas, c'est un preneur de notre braille. C'était beaucoup de travail. Il y a un moment où je me disais, c'est bien que dans mon bureau, j'ai pas de fenêtre parce que je pense qu'il y aurait passé de l'autre côté.
De l'autre côté. Mais c'est quoi? C'est quoi ce...
Le Braille Sense 6, c'est un appareil. En fait, c'est comme un ordinateur, mais qui est fait sans écran.
Okay.
Donc, c'est seulement avec du braille et aussi de la synthèse vocale, mais de comprendre ça, c'est plein de commandes, clavier, puis naviguer dans un menu. Bref, ça a occupé une partie de ma semaine. Puis l'autre chose que j'ai dû travailler fort, sur laquelle j'ai dû travailler fort cette semaine, c'est le braille musical aussi, parce que je suis en train d'apprendre ce code-là en vue de l'enseigner au travail. Puis je peux vous dire que c'est du costaud.
Ah oui, puis c'est pas le même code de braille que le braille pour la lecture, là. C'est pas
non,
la même chose?
Dans le fond, Louis Braille a créé le code pour les lettres, là, qui est comme l'alphabet qu'on peut utiliser dans plusieurs langues. Mais il a créé, un peu plus tard, il a créé le braille musical, qui est en fait la notation musicale, comme quand on lit une partition. Mm-hmm. Mais au lieu de la lire avec les yeux, là, on peut la lire avec ce code-là en braille. Fait que je suis en train de m'attaquer à ce mastodonte.
Génial. Ouais. Alors, écoute, aujourd'hui, tu connais bien notre invité. Est-ce que tu peux nous le présenter?
Oui, en fait, notre invité est Tommy Théberge. Tommy, c'est un homme engagé, gestionnaire, vraiment un homme de projet qui est présentement, corrige-moi si je me trompe, Tommy, directeur général de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec.
Exactement.
Exactement. Qui est un réseau majeur dans le développement du logement communautaire partout au Québec. Il a aussi été auparavant conseiller municipal à la ville de Longueuil et a travaillé pendant plus de 15 ans à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Tommy a été SRDV à l'Institut et a été mon SRDV quand j'étais ado.
Alors, je vais te reprendre. SRDV, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle.
Voilà.
Alors, écoute, faut pas oublier de mentionner que Tommy, vous vivez aussi avec une déficience visuelle. Alors, bienvenue à Y voir clair. On se retrouve tout de suite. Alors, bonjour Tommy, je vais vous vouvoyer, alors que Bianca, elle, comme vous vous connaissez depuis des années...
On va se tutoyer, ça va être plus naturel.
Ben oui.
Ouais. Alors, on veut tenter d'y voir clair puis comprendre si votre parcours est vraiment impressionnant. On veut essayer de comprendre, est-ce que c'est une question de personnalité, d'entourage, de ressources? Et on soulève aussi aujourd'hui la question, est-ce que les défis peuvent façonner un leader, influencer sa manière de diriger et décider comment on crée des projets, comment on les amène, ces projets-là? Mais pour commencer, simplement, on aimerait parler de votre déficience visuelle. Je veux connaître, quelle est-elle et est-ce qu'elle est de naissance?
Bien, d'abord, merci de me recevoir. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Ben oui, déficience visuelle, écoute, moi, je suis né avec des cataractes, donc bébé. Donc, à ce moment-là, mon cristallin était... Mes deux cristallins dans les deux yeux étaient opaques. Puis là, il faut se remettre là, dans le contexte. Moi, j'étais un modèle 75. Donc, ce qui fait qu'en 1975, des chirurgies de la cataracte sur des bébés, c'était quand même très rare que ça se faisait. Puis, ben moi, mes parents sont originaires des Appalaches, donc dans Bellechasse. Puis, à Québec, c'était pas question d'opérer sur le bébé. Puis, on s'est délocalisé à ce moment-là, puis on est allé vivre... mes parents sont allés vivre à Montréal, puis j'ai eu, plusieurs chirurgies à l'époque à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. ce qui m'a laissé une vision ben, à l'œil gauche qui n'était pas un grand succès, l'œil gauche. Maintenant, aujourd'hui, je suis complètement aveugle de mon œil gauche, mais j'ai quand même vu, je te dirais jusqu'en 2017, j'ai vu dans mon œil gauche. Mm-hmm. Œil droit, j'ai quand même une acuité d'à peu près 60. J'arrive quand même à bien me débrouiller. Puis, bien évidemment, j'ai eu toutes sortes de problèmes parce que dans mon parcours de vie avec les yeux, parce que nécessairement, ça vient avec, hein, glaucome, décollement de rétine, tout le kit. Fait qu'on a eu, quelques chirurgies, mais voilà. Donc, moi, c'est une naissance. Puis, ben écoute, on va se rendre comme ça jusqu'au bout.
Oui, Bianca me parlait d'ailleurs d'un moment de votre vie, parce que là, vous en parlez, vous parlez d'expérience d'opération et tout ça. Vous avez eu une période de votre vie, Bianca, tu m'as raconté que...
Oui, qu'il y a une opération qui avait été plus difficile. Puis je me souviens, Tommy, que pendant quelques mois, tu n'as presque pas vu, là, presque rien, dans le noir, pas mal complet, là.
Ben en fait, on se reporte, là, on est en novembre 2024, donc... J'ai fait une crise aiguë de glaucome vraiment majeure dans mon œil droit, donc dans mon meilleur œil. Puis, ben la chirurgienne, le docteur Giseli, ça fait des années qu'elle me suit, puis elle est excellente. Donc, docteur Lee disait, là, Tommy, on peut pas laisser ça comme ça parce que tu as une pression intraoculaire qui est vraiment élevée. Donc, elle dit, on va faire une chirurgie, là. Pardonnez-moi le nom, j'ai complètement oublié c'était quoi. Elle dit, inquiétez-vous pas, tout va bien aller. Puis, je veux dire, moi, j'ai une vingtaine d'opérations dans le corps, fait que tu fais confiance. Puis, ben à mon réveil, j'étais complètement aveugle. Donc, ce qui s'est produit, on ne savait pas trop parce que est-ce que c'était le nerf optique puis une poussée de pression pendant la chirurgie puis le nerf optique est attaqué. Donc, si c'est cette hypothèse-là, je reste aveugle, ça c'est sûr. L'autre scénario, c'était une hémorragie. Donc, à ce moment-là, le temps pouvait résorber puis commencer à retrouver de la vision. Donc, les premières semaines... petit à petit, là, à chaque jour, il y a un petit peu plus de lumière, mais c'est assez traumatisant.
Je comprends, parce qu'à ce moment-là, tu devais te voir ou pas. Ben, tu n'es pas habitué. Je veux dire, même quand on est malvoyant, on n'est pas non-voyant. Là, c'est comme une autre façon de fonctionner, tout ça.
Oui, ben c'est effectivement. Puis tu sais, c'est il y a ces questions-là, mais moi, je me disais plutôt... Qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, je suis un peu hyperactif. Je suis tout le temps dans plein de projets. Je suis tout le temps dans plein de choses. Puis là, je voyais toutes les choses que j'avais à faire devant moi. Puis là, je commençais déjà à penser, OK, comment je vais adapter mon environnement? Comment je vais m'ajuster? Fait que j'étais déjà... Okay. Je réfléchissais à comment j'allais y arriver. Puis avec l'entourage, puis tout ça, puis Le pire dans tout ça, c'est que moi, à ce moment-là, je venais d'avoir un nouvel emploi. Mm-hmm. Donc, puis quand tu as un nouvel emploi, ben nécessairement, tu n'as pas les premières semaines, tu n'as pas ta couverture d'assurance.
Ah, mon Dieu!
Fait que là, je me dis, aïe, aïe, là, je suis un peu fait aussi. Si je ne retrouve pas la vision, économiquement, tout ce qui me reste, à peu près une quarantaine de semaines mm-hmm. du gouvernement fédéral, là, je me disais, aïe, aïe, il y a ça aussi là, qui était dans tout ça. Mais bon, tranquillement, au fil du temps, je me suis mis à retrouver de la vision. C'est sûr qu'il y a encore des impacts aujourd'hui. Là. Je suis très ébloui, je suis beaucoup plus sensible à la lumière, une petite perte de champ visuel, un petit peu d'acuité. Mais bon, je veux dire, je suis très, très content là, de pouvoir, pouvoir voir. Là.
Parce qu'on le dit bien quand, on le dit à quelques reprises, la déficience visuelle, en fait, malvoyance et cécité complète, c'est un monde entre les deux.
En fait, chaque déficience visuelle est un monde en soi, moi, je trouve. Ouais. Chaque personne, tu sais, comme Tommy dit, bon, j'ai 6,60, tout ça, il y a des chiffres, tout ça, là, comme 6,60, par exemple, c'est que pour voir quelque chose à 60 mètres, à peu près comme quelqu'un qui le voit bien, il va devoir se placer à 6 mètres.
Okay.
Fait qu'il doit rapprocher 10 fois, tu sais. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui doit rapprocher 2 fois ou 20 fois ou qui a un problème de champ, ou comme Tommy, tu parlais d'éblouissement, mais tout ça, ça fait des portraits, des situations de handicap, des difficultés différentes. Fait que... c'est ça, tu sais, fait que c'est bien. Toi, toujours, Nathalie, tu demandes aux gens, c'est comment vous voyez quand on a reçu une nouvelle personne, puis ouais, c'est jamais pareil, tu sais.
Effectivement, mais d'ailleurs, Tommy, là, on est à un bras, là. Dans le studio, on est à peu près à un bras. Alors, comment vous me percevez, là? Est-ce que vous voyez des formes, des mouvements, des couleurs, des perceptions, là, vous dites, de la lumière?
Moi, il n'y a pas, à cette distance-là, il n'y a pas de problème, là, tu sais.
Okay.
Je vous vois, bon, tu sais, bon, je pourrais pas dire la couleur de vos yeux, là.
Okay.
Ils sont foncés, en tout cas.
Ah, c'est pas si mal. Les expressions faciales, est-ce que tu vois
ça? Les expressions, à cette distance-là, oui, je vais y arriver. Ça va aller.
Ça fait une petite grimace, là, oui.
Ouais, ça, c'est ce genre de truc-là. Moi, les difficultés, c'est sûr que les endroits non familiers, donc là, j'ai toujours... là, je suis plus craintif. Ça me prend plus de temps à m'adapter. Les changements de par exemple, les ombres, les lumières, tout ça. Mm-hmm. Puis, mon Dieu, moi, je travaille beaucoup avec la physionomie de la personne. Tu sais, je reconnais la physionomie. Fait que moi, c'est drôle, hein, parce que j'ai des collègues de travail là, au bureau, là, puis moi, je suis le premier à remarquer quand les filles changent le coiffure.
Ben oui, c'est sûr.
Le premier à lui dire, hey, t'as changé ta couleur de cheveux, puis là, il me dit, ben voyons donc, il n'y a personne qui remarque ça, mais toi, tu le remarques tout le temps. Ben, je dis, oui, mais c'est parce que moi, c'est comme ça. Moi, je reconnais les gens beaucoup par la physionomie.
Combien de personnes j'ai pas reconnues parce qu'elles ont fait une queue de cheval un matin au travail, là?
Ben, exactement, parce qu'on est comme ça, on s'habitue, c'est la physionomie des gens, puis c'est ça, puis là, quand ils changent, ben là, t'es plus sûr, tu sais, mais tu développes des trucs aussi au fil du temps, là, fait que voilà.
Tommy, si on revenait à votre enfance, avez-vous à un moment donné compris, enfant, que votre vision était différente de celle des autres?
Ah, ben oui, ça, tu le comprends assez vite. En ce sens que, je veux dire, bon, moi, j'ai grandi dans le Suroît, j'ai grandi à Saint-Zotique.
Mm-hmm.
Puis, évidemment, ben, tu sais, moi, j'étais dans un milieu intégré, hein, donc j'allais à l'école régulière avec tout le monde. Fait que c'est sûr que tu le vois. T'sais, moi, j'aime beaucoup le sport, je faisais beaucoup de sport. Fait que, tu sais, jusqu'à un certain moment, tu es capable de compenser parce que tout le monde est à peu près égal, mais à un moment donné, tu le réalises par le sport que là, oh, là, il y a vraiment un écart entre, tu sais, moi, j'étais un excellent patineur, un bon joueur de hockey, mais à un moment donné, la rondelle va tout simplement trop vite ou je la perds de vue. Fait que là, à un moment donné, je savais que c'était fini. Le baseball, ben, je ne pouvais pas jouer à ça. Il y a des... Fait que tu le réalises assez vite, jeune. Puis, ben évidemment, à l'école, ben moi, j'ai jamais vu au tableau de ma vie.
Oui, c'est ça, je demandais le tableau, là, ouais.
Non, ben que là, il m'assoyait en avant ou ça faisait pas de différence. Je voyais pas au tableau, fait que...
T'avais pas un télescope ou des aides visuelles dans ce temps-là, non?
Ah, écoute, en début des années 80, là, on est ailleurs, là. On n'est plus dans... On n'est pas dans la technologie 2026, là.
Fait qu'il y avait pas d'outils d'adaptation,
Tommy? Ouais, il y avait des outils. Il y avait des... Tu sais, t'avais la lunette, t'avais quand même avec la lunette. Puis encore là, les lunettes, moi, j'ai gardé ces lunettes-là. Ma mère a gardé ces lunettes-là, puis à un moment donné, elle m'a ressorti ça. Puis j'ai fait « Wow, comment je faisais pour voir là-dedans? » Puis c'était fascinant. Puis là, tu sais, je me souviens de ça, c'était épisodique, là, mais mes parents me disaient souvent « Mets tes lunettes. » Mais je passais mon temps à les enlever parce que je comprends après, finalement, que je voyais pas tant que ça, finalement, avec ces lunettes-là. Fait que, parce que j'arrive sans lunettes quand même à voir aussi. Fait que c'est des moments un peu cocasses comme ça. Mais tu vois, à l'école, moi je suis quelqu'un qui retient énormément. Fait que, tu sais, je m'assoyais, j'écoutais.
Mm-hmm.
Puis moi, j'absorbe. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, là, tu sais, je peux faire deux, trois choses en même temps. C'est pas trop un problème. Fait que, tu sais, je vais voir la télévision, radio. Je vais travailler à l'ordinateur, suivre l'information visuellement, mais je vais avoir une rétroaction sonore parce que j'utilise beaucoup les outils de lecture sonore aussi pour aller plus rapidement dans mon travail. Fait que tu développes ça au fil du temps. Tu sais, c'est pas, t'es pas plus brillant, t'es pas plus fin que les autres. C'est juste que tu te mets en mode adaptation. Tu sais, l'être humain, là, c'est une formidable machine d'adaptation. Hein. Puis c'est ça. Il faut constamment la mettre à l'épreuve, cette machine-là.
Mm-hmm. Je veux juste le dire, parce que toi aussi, Bianca, jeune, t'es allée dans une école régulière.
Oui.
Alors, Tommy, comment vos parents, parce que vous en avez parlé brièvement, comment vos parents ont abordé cette réalité-là avec vous? C'est-à-dire que là, vous avez dit que vous avez fait du sport, du hockey, donc vos parents ne se limitaient pas et vous faisaient faire ce que vous vouliez, là. Non, ils ne vous ont pas surprotégé.
Ça n'a pas été du tout le cas. Non. Moi, mes parents... Puis tu sais, des fois, je me questionnais, est-ce qu'à cette époque-là, ils réalisaient vraiment c'était quoi ma capacité visuelle? Mm-hmm. Est-ce qu'ils le comprenaient? Bon, tu sais, je pense qu'ils ne sont jamais enfargés là-dedans. Ils se disaient, bah, il va le faire, il va se faire mal, il va se relever, puis il va repartir. T'sais, ils ont toujours été... Tu veux faire quelque chose, tu veux aller à quelque part, ben prends ton bicycle puis pédale. Tu sais. Fait que, tu sais, c'était comme ça.
Pas d'inquiétude, est-ce que tu traverses des rues
en
vélo?
Non, okay. Eux autres, c'était pas. Non, tu sais, c'était quand même à l'époque où. Il faut s'en remettre aussi, là. On est dans les années 80.
Pas de
là.
Ceinture dans les autos.
Il y a pas grand monde.
Pas de casque à vélo.
Puis bien moins de circulation. Hey, aujourd'hui, c'est complètement fou, là. Tu sais, je pense pas qu'aujourd'hui, j'aurais eu. J'aurais eu toute cette marge de manœuvre-là.
Mm-hmm. J'ai l'impression que les parents aujourd'hui, ça, c'est peut-être une idée que je me fais, mais les parents sont peut-être plus surprotecteurs maintenant que dans les années 80. Parce qu'effectivement, dans les années 80, moi, je suis une modèle 66. Là.
Ouais.
J'allais jouer, moi aussi, dans la rue. Il n'y avait pas de préoccupation ou de très grandes inquiétudes de la part de nos parents à l'époque.
Non, on était ailleurs. Hein? C'est ça, on était là-dedans. Puis ils ont toujours laissé aller. Puis tu sais, au fil du temps, ben aussi, ben quand arrive 16 ans, 17 ans, ben là, tes chums commencent à avoir le permis de conduire. Toi, tu ne l'as pas. Fait que là,
t'es en région,
t'es
là.
T'es en région. Ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, le bicycle à pédale, là, il y a ses limites, aussi, ouais. Fait que là, tu fais, OK, là, un instant, là, si moi, je veux me propulser, je veux poursuivre, ben j'ai pas le choix. Il va falloir que j'aille en milieu urbain.
Mm-hmm.
Fait que je pense que quand tu es une personne handicapée visuelle, il vient à ce stade-là aussi, à un moment donné, où tu fais ce choix-là, puis tu te mobilises ailleurs, tu t'en vas, tu déménages, tu t'en vas dans une ville. Moi, je suis allé à Sherbrooke étudier. J'ai fait le bac là-bas après la maîtrise à l'Université Laval, puis je suis revenu après sur Montréal. Mais tu vois, pour le transport, tout simplement. Mm-hmm. Québec, j'ai pas aimé Québec.
Ah, okay.
Je suis désolé. Québec, j'adore. Mm-hmm. C'est une belle ville. J'aime ça. Mm-hmm. Mais côté transport en commun, on était en 1997-18 à cette époque-là. Non, ça, pour moi, ça répondait pas à mon besoin de déplacement.
Mm-hmm.
Fait que là, ben, j'ai dit, OK, pas de grande option. Là, ça va être Montréal. Fait que,
comment tu voyais le futur pour trouver un travail? Est-ce que tu avais l'impression que ça serait difficile? Est-ce que tu trouvais, bon, tel domaine, il va être plus accessible? Comment ça a été la réflexion en lien avec le milieu du travail?
Ah, que moi, je me suis pas posé de questions. C'est vraiment... Puis tout le long, dans mon parcours de vie, je fais ce que j'aime.
Ouais.
Tu sais, j'étais... moi, j'aimais beaucoup la politique, l'histoire, l'économie. Et j'ai dit, OK, déjà, tu sais, à 15, 16, 17 ans...
C'est mieux que si t'aimais la couture, le dessin et l'infographie, peut-être.
Ça aurait été ça. Tu sais, moi, j'adorais ça. Fait que j'ai dit, OK, m'en va, je fais mes admissions. Ah ouais, Université de Sherbrooke, on va faire le bac en histoire. Puis j'ai dit... Je verrais bien ce qui va arriver. Puis j'étais bien conscient qu'enseigner, tu pouvais pas enseigner au primaire ou au secondaire parce que ça te prenait le brevet. Mais je me disais, non, ça va. Ça c'est
ce que
des
j'aime,
expériences.
Il y a quelque chose qui va arriver, ça va se régler par soi-même.
Il y a quelque chose de bon qui t'attend si tu es toujours en mouvement.
Mm.
Puis après ça, ben là, j'ai fait le bac. Après, je dis, OK, je vais faire la maîtrise. Mais après, faut toujours que tu gardes toutes les portes ouvertes. Tu sais, quand je suis arrivé à Montréal, on était en 98-99, honnêtement, là, tu as un bac en histoire, une maîtrise en histoire, là, on va se le dire, là. Puis on est fin des années 90, il n'y en a pas de job. Il n'y en a vraiment pas, il n'y a rien. Puis bon, j'avais un ami, puis moi c'est drôle, parce que beaucoup de jobs que j'ai eu par mon propre réseau,
aussi,
des gens qui me disent,
ça.
Hey, je pense qu'il y a là, puis tu fais très bien là. Puis là, ben, à un moment donné, une de mes premières vraies expériences de travail, j'ai travaillé dans une communauté religieuse.
Oh, wow!
Puis j'enseignais le français puis l'informatique aux nouveaux arrivants.
C'est bien le fun.
Moi, ça, c'est une des premières. Fait que, tu sais, je me disais, on y va. Fait que, puis là, j'ai découvert un milieu super le fun. Ça m'a mis en contact avec toute la diversité, l'immigration, la réalité des gens qui arrivent ici. Tu sais, je trouvais ça super le fun. On les aidait là-dedans. J'étais là quand même un gros 2 ans avec, ça s'appelait le Centre Alpha Saint-Anne, là. Métro Beaubien, là. Ça a été vraiment une belle expérience. Puis les religieuses, J'ai beaucoup appris. Ils sont d'une rigueur. Sœur économe, moi, je pense à elle encore des fois.
Sœur économe.
Oui, on avait une sœur économe. Puis, tu sais, elle me disait toujours, chaque scène qui sort, elle revient pas. Puis,
là, oh
elle était vraiment, vraiment spéciale. Puis, la directrice était extraordinaire, elle aussi. Puis, elle, des fois, on avait des rencontres où on rencontrait, mettons, des politiciens, peu importe, mais elle m'invitait toujours. Puis, tu sais, là, je la voyais aller, puis tu sais, je me disais, waouh, à charge, elle, tu sais, mais tu voyais toute sa détermination. Fait que tu sais, c'est toutes ces petites expériences-là, tu apprends des choses.
Puis, Tommy, comment tu vois l'éducation, toi, en lien avec la déficience visuelle? Tu sais, tu dis, ah, je savais que je devais aller en ville, puis là, bon, mais tu as choisi histoire. Est-ce que tu voyais que, est-ce que tu voyais que, en tant que personne avec une déficience visuelle, comment tu voyais ça, le fait de s'instruire ou non? Est-ce que tu faisais un lien un peu?
C'est hyper important de s'instruire. Tu sais, aller à l'école, là, puis tu sais, honnêtement, là, on va se le dire, moi, au secondaire, je n'étais pas un bon élève. Ça ne m'intéressait pas, ça ne me tentait pas. Je m'arrangeais pour que ça arrive. Là,
ça n'arrivait pas, mais tu t'arrangeais pour que ça arrive.
Je m'arrangeais tout le temps pour que ça arrive. Puis je me souviendrai toujours parce que moi, j'arrivais avec mon sac d'école, puis là, j'arrivais, je le lançais dans le coin. Puis là, à un moment donné, mon père dit, pourquoi tu l'amènes ton sac d'école? Anyway, on le sait que tu ne l'ouvriras pas. Fait que, tu sais, secondaire, pour moi, c'était ça. Après, est arrivé le cégep. Là, je fais, OK, là, c'est le fun. Là, on est plus dans t'as plus ta liberté, ton autonomie, tu sais. Puis, faut dire, moi je suis très. Moi, l'autonomie, c'est tellement important pour moi. Puis là, je retrouvais, tu sais, une certaine forme de liberté. T'as pas cet encadrement-là que t'as plus au secondaire. Puis là, tu dis, OK, là, c'est à toi, là, de te propulser puis travailler. Mais, tu sais, dans les puis peu importe l'handicap, là, tu sais, aujourd'hui, on parle d'handicap visuel, là, mais peu importe l'handicap, t'as à peu près un 70 % malheureusement des gens qui sont peu ou pas scolarisés, qui vivent seuls et qui ont des revenus inférieurs à 15 000 $
Hey, c'est pas
ça, c'est la réalité des personnes handicapées, là. Puis le passage, ben c'est l'éducation dans ça. Puis oui, tu sais, au niveau politique, on a eu des grandes avancées, les personnes handicapées, puis tu sais, ça, on en doit beaucoup à la politique à part entière, à part égale, tout ça, tu sais, puis ça, c'est venu beaucoup nous aider. Là, maintenant, il faut être capable d'utiliser tous ces outils-là, ces leviers-là, pour continuer, nous, comme population de personnes handicapées, à faire avancer les choses. Mais pour ça, ben ça nous prend une communauté qui est solide, une communauté qui est forte, une communauté qui est éduquée, ben une communauté qui est engagée aussi dans la société tout partout. Fait que ça, c'est hyper important.
Je veux juste, en fait, quand on a parlé de votre parcours en début d'épisode, on voit aussi beaucoup de projets parce que vous avez une belle carrière professionnelle et vous embarquez, vous avez beaucoup de projets aussi.
Ouais.
Dont, parce que je veux qu'on en parle brièvement parce qu'on aimerait ça vous réinviter éventuellement pour en reparler, mais on a Brightab. Vous avez beaucoup de projets. Brightab, Musique au Max, votre implication sociale, la politique municipale dont vous venez de parler. Mais d'où vous est venue justement cette envie-là constante de créer puis de bâtir tous ces projets-là? Parce qu'on parle d'éducation, certes, mais encore, vous poussez la machine encore plus loin, Tommy. Là.
C'est sûr que moi, je reste un entrepreneur dans l'âme.
Ouais.
Moi, j'aime créer, j'aime innover, j'aime foncer, puis je me mettrai pas des limites. Tu sais, on fait quelque chose, on l'essaye. Tu sais, Musique au Max, c'est drôle comment c'est arrivé. Je me cherchais un loisir pour me relaxer. Puis là, bon, j'ai commencé à suivre des cours de guitare parce que moi, quand j'étais au secondaire, j'étais pas capable de voir les satanées partitions. Fait que là, la solution, ça a été, ils ont essayé d'agrandir les feuilles, ça marchait pas plus. Fait que là, ils ont dit, bon, ben OK, on va le sortir de la classe puis il y aura une période libre. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé, mon immersion dans la musique. Mais là, je me suis dit, un jour, on va me rattraper, puis je vais en jouer de la musique. Fait que là, j'ai commencé à jouer de la guitare dans une école de musique. L'école ferme. Mais là, j'ai connu Jean-Pierre, qui était mon professeur de guitare, qui aujourd'hui, je veux dire, c'est un ami incroyable, Jean-Pierre. Puis là, j'ai dit, ben, on va faire une école, mais plus que ça. On va faire une école avec un studio d'enregistrement, avec un service de lutherie, mais ça va être une école aussi qui va être inclusive. Parce qu'on va, accueillir les gens aussi qui ont des différences, qui ont des défis. Puis, ben par mon bagage, si je peux, ben j'aiderai un petit peu les professeurs qui sont là juste pour c'est quoi les bons gestes à adopter, tout ça. Puis, de fil en aiguille, ce que j'ai réalisé après, parce que là, il y avait des gens qui venaient pour apprendre la guitare, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il n'existait pas de code de transcription des partitions en braille pour guitare.
Et ça, de là, BrailleTab, hein, c'est ça?
Ben là, je me suis dit, un instant, là.
Un instant?
Ouais, m'en créer un code. Fait que là, j'ai réfléchi à ça. J'ai tourné ça dans ma tête. Je me suis entouré. Parce que c'est important d'être toujours entouré. Tout le temps. Là, je me suis entouré de quelques personnes. On a réfléchi ensemble. Puis là, on a fait un code. Mais ce que je voulais, moi, c'était un code que en 5-10 minutes, qu'une personne voyante, un enseignant, un accompagnateur, puis la personne handicapée visuelle qui va utiliser les partitions avec le système des tablatures traditionnelles, bien que ces gens-là, ils se rendent compte, puis qu'en 5-10 minutes, on explique le code, puis qu'ils soient capables de, après ça, transcrire les partitions ensemble. Puis on a trouvé la manière de le faire. Ça, c'est extraordinaire. On a fait un lancement en 2017. On a eu, puis là, aujourd'hui, bien, tout ça est gratuit. Il y a une bibliothèque de partitions musicales. Les gens peuvent les télécharger en devenant membre BrailleTab. J'ai des gens d'aussi loin que du Japon, de l'Afrique du Sud, de l'Europe qui téléchargent ces partitions-là. Et on a tout un créneau de formation aussi avec EasyGuide qui permet aux gens de suivre des formations, mais à un rythme où là, on prend le temps de décortiquer les mouvements, expliquer les choses. Donc, que tu aies une déficience visuelle ou pas, c'est intéressant parce que l'apprenant, on y va avec un rythme un petit peu plus. On prend le temps d'expliquer les choses. Puis là,
ouais.
Il y a une autre affaire qui est arrivée. Ouais. C'est que là, moi, un paquet de maman et de papa qui me disent, ouais, mais tu sais, moi, mon enfant, là, il veut jouer du piano puis il veut jouer au clair de la lune. Il ne veut pas jouer à la cinquième mélodie de Beethoven. Là. Fait que lui, là, il va être initié au piano. Puis là, ben, Bianca en parlait en entrée d'émission. Elle disait, je suis en train d'apprendre le code de transcription musicale. Je veux dire, ça, là, c'est monstrueux. Là.
C'est une affaire, du costaud.
C'est une affaire indigeste. Là. Tu peux pas donner ça dans les mains de quelqu'un qui est débutant. T'sais, dans le fond, je me suis dit, OK, comment maintenant, on repart de la même idée, avec un système de tablature, comment on pourrait créer des partitions en braille dédié aux pianistes débutants. Puis de là, on travaille là-dessus, on a un comité, on a une dizaine de personnes, même deux Françaises qui travaillent là-dessus, puis on va accoucher d'un beau bébé très bientôt.
Génial.
On va venir en parler de ça.
On va en reparler. Alors, Bianca, Tommy, on fait une courte pause et on continue la conversation tout de suite après.
Vous écoutez Y voir clair avec Nathalie Barrette et Bianca Lucier Dalpé.
On est toujours avec Tommy Théberge, homme entreprenant, autant impliqué dans la communauté qu'au municipal, en déficience visuelle, etc. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qui a fait, Tommy, dans toute ton expérience de vie, tu sais, que t'en es venu à être la personne que tu es. Puis on se demande surtout, particulièrement, en tant que personne qui dirige des équipes, des organisations, des projets, on se demande un peu, Nathalie et moi, le côté déficience visuelle. Est-ce qu'il y a des défis quand on veut, qu'on doit diriger une équipe, qu'on doit avoir confiance en soi, qu'on doit avoir aussi la confiance d'une équipe pour nous, que les gens aient confiance en nous puis qu'on a une déficience visuelle? Comment on aborde la déficience visuelle? Comment on dit ça à une équipe? Est-ce qu'il y a des défis en lien avec ça?
Ah, c'est une bonne question. Ben, en fait, moi, je dirais, j'ai eu le bonheur de gérer énormément d'équipes, énormément de petites, de grandes équipes, énormément aussi de projets, énormément d'argent aussi. Mais ce qui revient tout le temps, tu sais, puis partout où j'arrive dans des organisations, ben, moi, je pense que déjà, d'entrée de jeu, on nomme les choses. Tu sais, moi, déjà, je me souviens, quand j'arrive dans un endroit, dans une organisation, je le mentionne. Je dis, écoutez, moi, j'ai un problème de vision, mais voici, c'est à peu près ça les impacts. Puis vous allez voir, c'est à moi de m'adapter à l'environnement. Vous ne verrez pas nécessairement tous ces impacts-là, mais il pourrait arriver que je demande telle chose pour juste pour m'aider, me soutenir. Les gens, quand tu leur présentes ça, puis tu leur expliques ça comme ça, il n'y a pas personne de mal intentionné, puis les gens, ils vont t'aider. Après, tout ça, là, ça s'oublie. Ça s'oublie bien vite. Parce que si tu es une personne qui est engagée, qui est authentique, qui est travaillante, et que tu donnes l'exemple, tes gens vont travailler avec toi. Ils vont se mobiliser avec toi. Puis moi, ce que je recherche beaucoup dans les organisations, puis du recrutement, j'en ai fait énormément, puis je dis toujours, moi, la première qualité que je cherche chez un candidat, c'est son authenticité. Mm-hmm. Moi, une personne qui n'est pas authentique, je regrette, j'aime pas, je trouve qu'on perd du temps à travailler dans ce temps-là. Fait que je vise toujours d'avoir des gens qui sont le plus authentiques possible, des gens engagés, puis des gens compétents. Un coup, là, que tu as ces trois ingrédients-là, là, on va dire, il n'y a plus grand-chose qui peut t'arrêter. Parce que ces personnes-là, l'authenticité, ils vont être capables de dire « Écoute, il y a telle chose, moi, je vois ça comme ça. » Puis là, on rouvre la discussion, puis on discute. Puis on échange. Puis à un moment donné, oui, il faut décider, il faut prendre une orientation, mais un coup que t'as eu cette discussion-là, puis que ces personnes-là ont été capables de te nommer puis de dire les choses, bien, on comprend aussi pourquoi tout le monde, on avance ensemble. L'engagement, on a un objectif, on se donne un but commun, on va... Puis des petits, des grands, des moyens, c'est pas grave. On a un objectif qui est clair, on a une vision qui est claire, bien... Les gens, une fois qu'ils comprennent où on s'en va, bien, ils vont y aller, évidemment, si ça rejoint leurs valeurs, puis ils vont adhérer, puis ils vont travailler aussi ensemble. Puis évidemment, bien, ton leadership doit transpirer ça aussi, tu sais. Puis évidemment, la compétence d'être rigoureux, travaillant, débrouillard, autonome, tu sais, toutes ces qualités-là, il faut que ça ressorte aussi. Fait que c'est ça qui te permet de mobiliser. Puis je te dirais, moi, il y a des gens qui disent « Ah, Tommy, on le remarque 5 minutes, puis après, on l'oublie. » Fait que c'est, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Puis tu sais, après, j'ai fait de la politique, j'ai travaillé dans des grandes organisations où j'avais des équipes ou tout ça. Puis ce commentaire-là, il revenait souvent, c'est « Ah, ben après 5 minutes, on a complètement oublié. Ouais.
» Tu sais, je me demande, Tommy, parce que dans un autre épisode de la même série, on a reçu Mme Martine Bédard. Puis Mme Bédard, elle était gestionnaire voyante, puis elle a perdu la vue d'un coup.
Okay.
Puis une chose qu'elle trouvait difficile, ayant perdu sa vision, c'est qu'elle n'arrivait plus auprès de ses employés ou de ses partenaires de cerner le regard. Quand elle devait amener une idée, quand elle devait les convaincre ou faire valoir une idée ou juste comme savoir ce que les gens pensaient réellement sans nécessairement exprimer, bien, elle avait perdu toute la communication, bien, peut-être pas toute, mais une grande partie de la communication non-verbale.
Le non-verbal.
Ouais, oui, comment toi, tu trouves, tu sais, que ce soit en politique où il faut sourire aux gens, aller au souper spaghetti, les reconnaître, comment ça se passe? Il me semble, j'imagine que ça doit être un défi. Je me mets dans cette situation, je me dis, oh, il y a tellement de monde à reconnaître, puis à sourire, puis à savoir ce qu'ils pensent.
Bien, moi, je pense là-dedans, il faut être humble, modeste, puis il faut être prête aussi peut-être un peu des fois à caricaturer ou à utiliser l'humour.
Ouais.
Tu sais, des fois, faut que tu désamorces les affaires, tu sais, tu fais...
Il peut arriver des petites gaffes,
il arrive des
fois.
Petites gaffes, il arrive des choses, puis là, tu l'expliques, là, tu vois, vous savez bien, là, moi, je vous ai pas vu, qu'est-ce que vous voulez? Fait que là, on part, tu sais, puis il y a des stratégies aussi qu'on développe. Tu sais, moi, par exemple, quand j'étais en représentation, puis autant en politique que, mettons, en représentation dans différentes organisations où j'ai travaillé, bien, tu sais, souvent, t'es deux en représentation, tu sais, puis... Puis j'utilise à peu près toujours la même stratégie, là, je vais la dire. Fait que ceux qui vont me croiser vont dire « Ah, le petit
c'est
coquin! »
C'est ça son truc!
Tu sais, moi, je dis toujours à la personne qui est avec moi, « Écoute, moi, là, il y a bien du monde que je ne reconnaîtra pas. » Ils vont venir me voir, puis ils vont me dire « Ah, salut Tommy, comment ça va? » Bien, là, moi... Je la reconnais pas, la personne. Mm-hmm. OK, parce qu'elle a changé de physionomie. Bianca l'a dit, elle s'est mis une couette. Que, là, je la reconnais pas sur le coup. Des fois, je reconnais la voix. OK, ça, c'est pas pire. T'sais. Mais là, la personne qui était avec moi, je disais, ah, ouais, je suis super content de te voir. Écoute, je te présente Bianca qui est avec moi aujourd'hui.
Puis là, il n'y a pas le choix de se présenter.
Là, Bianca, elle se présente. Elle dit, oui, je suis Bianca, je travaille à la radio. Vous êtes monsieur ou madame. Puis là, ah, ben moi, je suis madame X. Puis. Là, moi, cling, cling, tout vient de s'éclairer dans ma tête. Puis ça va. Fait que ça, il y a toutes sortes de petites stratégies.
C'est des
comme
stratégies.
Ça.
Tu vas pas. J'imagine, en premier lieu, tu essaies tes stratégies. Puis si ça réussit pas, c'est là que tu vas dire.
Ça m'est arrivé récemment. La personne était devant moi. Puis là, je la regarde. Je dis, pauvre vous. Je vous reconnais pas pantoute. J'ai dit, il va falloir vous m'aider un peu. Fait que, elle dit, ben oui, Tommy. Elle dit, on s'est vu, il y a 3 mois. Ah, OK, ça, c'est pas eux, là, mais je vous replace pas plus. Et là, c'est nommé. Je dis, ah, oui, OK, là, je me situe. Mais tu sais, c'est ça. Faut s'adapter. On s'adapte, on s'ajuste. Faut pas avoir peur, des fois, d'avoir des drôles de situations. Puis, faut l'accepter, je veux dire. Puis, les gens, ils savent aussi. Ils te connaissent, ils savent, ils viennent vers toi. Les gens, puis souvent, je dis aux gens, ben, si vous venez vers moi, dites qui vous êtes. Ou, tu sais, puis dis, salut, Tommy, c'est Bianca. Ah, ouais. OK, parfait. Mm-hmm. Tu sais, puis là, les gens, ils sont habitués. Puis là, ben, tu vois, là, dans le nouveau réseau où je suis actuellement, là, ça fait déjà presque un an et demi, là, bientôt que je suis avec eux. Ben là, oui, les gens, maintenant, ils savent, viennent me voir. Puis là, ben, ils vont dire, ah, bonjour, c'est Francis, comment ça va, Tommy? Mais c'est ça, c'est con. Mais ça, c'est parce que je suis allé vers eux aussi, puis j'ai eu cette posture d'ouverture-là tout le temps. Puis ben oui, des fois, le non-verbal, tu le vois pas, mm-hmm. mais il y a d'autres mondes à la table, par exemple. Puis tu as des collègues qui sont avec toi. Puis là, tu peux dire, OK, tu fais un débrief après ces rencontres-là. OK, comment tu as perçu ça? Là, comment tu as perçu son non-verbal? Ou des fois, je le dis à mes collègues, je dis, ah, surveillez donc son nom, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, après, on refait un débrief, puis là, il me donne de l'information, tu sais. C'est sûr que la réaction est moins spontanée, mais au moins, mais on le sent.
Elle est compensée.
Elle est compensée, c'est ça, ouais. Exactement.
Hey, Tommy, quand vous regardez votre parcours, tout ce que vous avez accompli, projet, travail, tout ça, ouais. Selon vous, qu'est-ce qui a été le plus déterminant? Est-ce que c'est votre personnalité? Est-ce que c'est votre rencontre, toutes les rencontres que vous avez faites? Est-ce que c'est votre entourage? Ou encore les défis que vous avez dû surmonter? Si on fait un petit...
Ben, c'est un mélange d'un peu tout ça. Moi je dirais, là, pas plus fin, pas plus beau que les autres, mais tabarnouche que je suis travaillant. Ouais. Ça, je suis un travaillant infatigable. Puis quand je plonge dans quelque chose, je vais mener le projet. Puis si ce projet-là, je ne l'ai pas, je ne rencontre pas mon objectif, je vais m'arranger à un moment donné pour l'atteindre. Tu sais, moi, je voulais être élu parce que je voulais vivre l'expérience. Ça fait quoi un élu? Mm-hmm. Tu sais, j'avais une conception de l'élu avant de l'être, mais là, je me disais, je vais être élu. Je fais la première campagne électorale, je la perds. J'aurais pu m'en aller dans mon coin et dire, oh, la politique, c'est fini. Binanana.
On se retrousse les manches, on repart.
Heads up! Puis là, j'ai sauté la campagne suivante là, parce que là, je travaillais beaucoup. Puis j'ai dit, là, je vais attendre. Puis là, ben finalement, 8 ans après, ben j'ai refait le saut avec Mme Parent. Puis à ce moment-là, ben j'ai été élu. Mais tu sais, je pense qu'il faut se donner des petits, des moyens, des grands objectifs, puis avoir une vision claire, puis il faut travailler. Ça, écoutez, c'est clair, là. Je veux dire, faut aimer travailler, mm-hmm. puis il faut aussi aimer les gens. Ouais. Ça, c'est tellement important, là. Les gens, il faut les aimer, les gens, il faut les aider, les gens, il faut les écouter, je reste foncièrement un humaniste, là. Je crois qu'on s'en va, malgré dans tout ce qu'on peut vivre actuellement dans le contexte international. Moi, je crois qu'on s'en va toujours comme humaniste vers quelque chose de mieux, quelque chose de... Puis ça, moi, je l'applique aussi à petite échelle. Je l'applique pour moi. Puis c'est ça. C'est comme ça que j'avance tranquillement.
Alors, Bianca, les gens que tu rencontres au quotidien, est-ce qu'ils disent sensiblement la même chose quand ton entourage, quand tu as beaucoup de volonté, quand tu travailles fort, c'est là où la réussite... où on se rend compte qu'on peut réussir dans la vie. Est-ce que...
Bien, l'attitude change tout.
Oui.
C'est une grosse question parce qu'on peut se dire d'où vient cette attitude-là. Il y a peut-être des gens qui, par leur enfance ou leur psychologie, leur caractère, sont favorisés parce qu'ils ont comme une attitude d'ouverture, une attitude positive, une ouverture de vouloir, une aptitude à voir le positif dans les choses puis à ne pas se laisser démonter par les défis. D'où ça vient, je ne le sais pas. mais ça l'entourage fait une grande différence.
Ouais, ouais. L'entourage, il ouais, y est pour beaucoup, là.
Oui, ben oui. Oui, tout à fait. C'est dans quel
l'éducation, les parents, oui. les amis, ben les oui. proches. Ouais.
Les amis.
Les collègues de travail aussi, oui. Tommy, vous l'avez dit.
Ils sont là, et les gens, tes amis, tout ça, tes ouais. collègues, ils te supportent, ils t'aident, ils t'encouragent. C'est super important, là. Puis tu sais, tu fais ces choses-là, mais attends rien en retour. Avance, fais tes affaires, avance, travaille. Puis, anyway, tout va tomber, puis ça va te revenir. Il faut juste soyez confiant. Puis...
Je pense, Tommy, aussi, quand les gens n'ont pas honte d'avoir une déficience visuelle, des fois, je dis ça à mes usagers, je dis, c'est pas une honte.
Mais non.
Ça peut se dire, ça peut... Les gens, quand ils... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cachent leur déficience visuelle ouais. ou leurs difficultés, mais aussitôt que c'est dit... C'est quand même, c'est généralement bien compris. Il faut juste apprendre à comment on l'explique. Puis ouais. ça prend du temps avec la confiance, à travailler, comment on l'explique pour bien se faire comprendre, puis tu sais, mettre les gens de notre côté pour qu'ils soient des alliés, tu sais.
Ouais.
Ouais,
on va faire une courte pause et après ça, place au questionnaire. Tommy, c'est votre choix.
OK.
OK? Toutoum. Toutoum.
Alors, Tommy, on va y aller avec un segment « C'est votre choix ». Nathalie et moi, on va te poser des questions qui ont chacune trois choix de réponses, des fois quatre. Mais ouais. là, le défi, c'est qu'il faut choisir. On peut en jaser, mais il faut en choisir un.
Mm-hmm.
Alors, première question. Quand on regarde les avancées au niveau technologique, parfois, on est presque dans la science-fiction. Tu sais, toutes les nouvelles choses qui se font, on a juste à penser à l'intelligence artificielle, par exemple. Selon vous, selon toi, en fait, pour les personnes qui ont une déficience visuelle, qu'est-ce qui va être le plus révolutionnaire dans les prochaines années? Donc là, on a choix numéro un. Les lunettes intelligentes qui vont décrire ce qui se trouve devant nous, les visages, les objets, les panneaux, les obstacles, etc., qui décrivent l'environnement. On pourrait penser aux lunettes Meta, par exemple. Ça, c'est A. B, les implants visuels qui vont permettre de contourner, dans le fond, le fait que, bon, l'œil ne peut pas bien voir en allant stimuler directement le cerveau. C, les agents conversationnel d'intelligence artificielle, ChatGPT, Copilot, Claude, qui vont pouvoir, par exemple, répondre à des questions sans avoir à aller faire des recherches sur Internet, qui vont pouvoir lire un menu, identifier des objets, etc. Ou finalement, numéro D, on laisse la réponse vide à ton imagination, n'importe quel autre outil technologique que tu entrevois comme étant prometteur.
Ben, c'est une belle question. Tu sais, dans ça, tu évoques tout ce qui est la santé puis la science médicale, tu sais. Puis ça, je le sais, là, il y a tellement de gens qui font de l'espoir là-dedans. Puis tu sais, des fois, j'ai comme envie de dire aux gens, ben, regardez, oui, ça avance, mais tous ces progrès-là, ben, malheureusement, nous, je suis pas sûr qu'on va vivre les impacts sur nous de ça, tu sais, je veux dire... Moi, je suis né en 75, j'ai les cataractes. Aujourd'hui, un bébé en 2026, les cataractes, là, il y a une chirurgie en 20 minutes, puis il n'y a presque aucun impact sur le visuel. Mais ça, c'est parce que la science a évolué.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, moi, je dirais, mettons la science de côté, là, la science médicale, parce qu'il faut faire attention à ça. Combien de gens qui sont allés se faire opérer dans des endroits, puis c'est la catastrophe quand ils reviennent. Tu parles.
On élimine l'implant. Ah, tout
complètement.
Suite.
Ça, ouais. on élimine ça. Je veux dire, puis ils donneront pas ça à un monsieur de 51 ans, là. ils vont miser sur des jeunes, puis qu'il y a tous des signes de santé, puis tout ça, là. Fait qu'il faut être réaliste dans ça. En fait, l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose actuellement qu'on n'a aucune idée de la portée où ça va nous amener. Ça, c'est... Pis, en même temps, c'est épeurant. Il y a des enjeux, il y a des risques énormes, mais l'intelligence artificielle, par contre, elle peut nous aider dans la gestion de notre travail au quotidien. T'sais, moi, j'ai commencé à l'utiliser, là, puis j'ai vraiment vu des impacts sur mon travail. Donc, je rédige toujours tous mes textes, là, n'ayez crainte. Mais je donne un petit coup de pouce, un petit coup de copilote des
le
fois.
Le faire passer dans le bidule, ouais, pour aller corriger des petits côtés.
Wow, lui, il me retwist ça, là, puis c'est vraiment positif. Puis là, ça me ramène comme ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça quand même intéressant de ce point de vue-là. Votre recherche documentaire, faites-la. Ça, c'est super important. Mais tu sais, moi, je pense que l'intelligence artificielle va nous faire avancer. Après ça, les autres bébelles technologiques, là, moi, j'ai travaillé à l'Institut Nazareth et Louis-Braille. Là, j'étais chef de service des aides techniques. Là, puis de la bébelle, là, j'en voyais tout le temps. Il y avait, j'allais dans des foires informatiques. J'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis. À quelques endroits, j'allais aussi. J'étais allé en Grande-Bretagne, j'étais allé en France. J'ai fait plusieurs endroits où j'ai regardé un paquet d'aides techniques. Tantôt,
tu parlais. Tu devais être allé à Seaside, en Californie.
Aussi, à San Diego, Los Angeles. Tu parlais du Braille Sense. Braille Sense a rendu version 6, tu disais. Moi, je l'ai connu dans version 1. Tu sais, fait que. Tu sais, c'est un flow continu, ça avance, la technologie est là, ça va nous apporter. Mais moi, je pense qu'il faut utiliser aussi les outils qui sont à notre portée, qui sont génériques, que les personnes, monsieur, madame, tout le monde, a accès aussi dans son quotidien. Okay. Mais nous, comment personnes handicapées usuelles, on peut les utiliser au maximum pour augmenter notre potentiel, ben faisons-le aussi. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour nous.
Donc, utiliser les technologies grand public à notre avantage
pour
combler nos
tirer le meilleur de ça pour nous.
C'est fou qu'encore aujourd'hui, les gens, quand j'entends ce que Tommy dit, qu'on se pose encore la question, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est nuisible ou c'est aidant? Là, j'entends que c'est clairement aidant dans le cas des déficiences visuelles.
Avec déficiences visuelles, moi, maintenant, là, dans mon travail de SRDV, il n'y a presque pas un usager à qui je ne vais pas enseigner comment utiliser l'intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre. Là.
De façon intelligente.
On essaie.
Oui, exactement. Alors, deuxième question, Tommy. Si vous deviez nommer, en fait, le principal frein qui est encore, pour les personnes qui ont une déficience visuelle, qui est encore présent dans notre société. Alors, est-ce que ce serait A, la technologie, justement, qui n'est pas toujours conçue pour être accessible à tous? B, est-ce que les villes, les lieux publics mal adaptés où vous avez encore de la difficulté pour plusieurs personnes à vous déplacer, ça reste encore compliqué, là. L'accessibilité, ça reste compliqué. Ou les perceptions et les préjugés? L'idée que les personnes se font que, justement, qu'une autre personne qui a une DV, une déficience visuelle, serait limitée dans tout ce qu'elle peut accomplir. C'est quoi le principal frein? Est-ce que c'est le regard des autres, la technologie ou les lieux publics?
Ça, c'est une bonne question. Oui, il y a des barrières architecturales, oui, il y a des barrières en accessibilité universelle, mais on en a déjà fait tomber plusieurs. Puis si on continue de mener ce combat-là comme communauté, les villes ont grandement évolué. Maintenant, il faut qu'ils mettent en place un plan d'action. Les villes qui ont 15 000 de population et plus en lien avec les personnes handicapées. Le code du bâtiment, il y a quand même... Il y a tout un volet sur l'accessibilité universelle. Ils vont avoir une mise à jour bientôt aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est en évolution. Ce qu'il faut travailler, bien, moi, je dis toujours, c'est la sensibilisation, la formation. C'est tellement important parce que des préjugés, bien oui, il y en a.
Il y en aura toujours.
Mm-hmm. Puis s'il y a une place où on doit continuer, bien, c'est de montrer des bons exemples, des succès, tu sais, des histoires... Des témoignages, des histoires à succès qui viennent montrer aussi que, intégrer une personne handicapée dans ton entreprise, là, ben il y a d'énormes bénéfices. Mm-hmm. Puis c'est documenté, là. Les personnes handicapées, généralement, qui intègrent une entreprise qui sont bien intégrés dans ça, bien, ça fait des employés souvent qui sont beaucoup plus loyaux à l'organisation. Ils vont rester là vraiment longtemps. L'engagement va être là. On en parlait tantôt. Puis toute la détermination, le travail, tout ça. Donc ça, c'est... Mais ça, on a du travail à faire. On a du travail à faire auprès du grand public, auprès des employeurs, auprès des écoles, auprès des enseignants, auprès de tout le monde. Puis ça, je pense qu'il faut continuer là-dedans. Le reste, ça va suivre. Mm-hmm. À partir du moment où tu brises les préjugés, bien, le reste va suivre. Parce que, OK, si tu admets que les personnes handicapées, ils peuvent faire ça, qu'ils doivent faire ça, bien, le reste, après, c'est tout du légal puis du politique. Fait que ça va venir s'arrimer. Fait qu'il faut travailler en amont sur ça.
Fait que les gens en premier, le reste suivra.
Moi, c'est toujours les gens d'abord, les bébelles après.
OK. Ouais. On retient ça. Quand on vit avec une déficience visuelle, même quand on ne parle pas de cécité complète, là, être malvoyant, par exemple, ben, on sait qu'il y a plusieurs façons de compenser. On va souvent parler des sens ou des stratégies. Si tu devais choisir, toi, Tommy, personnellement, s'il fallait trouver... tiens, je vais rajouter un D. Ah, est-ce que c'est Louis pour comprendre l'environnement, les distances, les mouvements? C'est Louis qui est le plus important. B, le toucher qui permet de lire, ben, peut-être pas dans ton cas, là, mais reconnaître des objets, t'sais, repérer des choses dans l'information. C, l'intuition sociale. Donc, l'intuition sociale qui sert à percevoir ce que les gens ont l'air de penser, les émotions qu'ils peuvent vivre. Ou moi, D, je dirais la compensation cognitive, là, de réfléchir à « je suis à tel endroit, je pourrais croiser telle personne », de faire des hypothèses dans sa tête là, pour ne pas se retrouver pris au dépourvu. Qu'est-ce qui serait le plus important?
Oh, wow! Ça, c'en est une salée, celle-là. ouais, l'anticipation... Ta dernière, ça réfère à l'anticipation. Puis, émané, tu peux pas sur-anticiper parce que là, tu te crées de l'angoisse puis tu te mets des limites. Ça, je l'écarterais, celle-là.
Intéressant.
À un moment donné, il faut que tu avances. Puis, si tu es toujours dans cette anticipation-là, ben au final, ça peut te paralyser plus que te faire avancer.
Fait que se préparer à l'avance, pas toujours.
C'est important, une préparation. Okay. Tu sais, c'est le fun de savoir où je m'en vais puis qu'est-ce que je vais faire.
De regarder le trajet sur Google Maps, par exemple.
Ça va. Mais tu sais, d'anticiper, il y a telle personne, il va réagir de telle façon quand ils vont me voir. Non. Soyez pas là-dedans, là. Préparez-vous, préparez votre rencontre, préparez votre trajet. Ça, n'importe qui doit faire ça. Il y avait Louis,
le toucher, l'intuition sociale, qui est comme la capacité à... de façon un peu mystique, on ne sait pas trop comment, arriver à percevoir ce que les gens pensent, même quand on ne voit pas les expressions faciales.
Ça, c'est tellement important. C'est d'avoir cette sensibilité-là puis cette capacité-là à ressentir les gens, à ressentir les choses, ressentir l'environnement. Là. Ça, pour moi, là, c'est tellement important. Là. C'est... Parce qu'à partir de là, je suis capable de m'ajuster, je suis capable de m'adapter. Ça, pour moi, c'est super, super important. Je dirais que ça... J'ai utilisé ça beaucoup dans ma vie. Là, ouais.
L'intuition sociale est notre grand gagnant.
Le grand gagnant.
Ouais, je pense que oui. Ouais.
Tommy, autre question. Dans votre parcours de gestionnaire et de dirigeant, là, selon vous, le meilleur leader, il doit... inspirer les gens, donner envie de se dépasser et de croire à un projet. B, structurer, organiser, bâtir des plans solides pour les faire avancer, ces projets-là. Ou C, mobiliser je vois déjà un peu la réponse, là. Mm-hmm. Mobiliser les équipes, créer une énergie collective où tout le monde trouve sa place. Alors, A, B ou C?
Ben oui, c'est sûr qu'il faut mobiliser les gens.
On voyait venir la réponse.
Ben oui,
maintenant
c'est sûr.
Qu'on vous connaît.
Ceux-là qui ont tendance... Tu sais, ta deuxième exemple, là, structurer, organiser, planifier. Oui, c'est important. Là. Mais quand tu fais de la gestion, tu sais, quand oui, c'est important ça, mais il faut que tu fasses vraiment attention parce que c'est super dangereux. Tu sais, il y a un principe... puis en gestion, puis moi, c'était inspiré d'un célèbre général, général du 19e siècle allemand.
Ah, je réponds en douceur.
Lui, il disait toujours, à chaque fois que tu exerces du contrôle, t'en perds un peu. Puis il y a tellement raison.
Ah,
il y a tellement raison. T'avances avec ta gang, tu donnes l'exemple, tu mobilises ton monde, t'as une vision claire. T'as des objectifs, puis on va porter ça ensemble. Les gens qui sont avec toi, là, ils ont toutes leurs compétences, ils ont toutes leurs choses, puis ils vont structurer à patente, t'inquiète-toi pas. Puis ils en ont des solutions, puis ensemble, on va en discuter, puis toi, t'arrives avec ton bagage, ton expérience de gestionnaire, puis tu dis, ben OK, oui, ça, je pense que c'est pas pire. Avez-vous pensé à telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire? Après ça, c'est ça. Tu sais, un gestionnaire, moi, je me suis toujours décrit comme étant un chef d'orchestre. Puis je me souviens, la dernière entrevue que j'ai faite avec mon employeur actuel, moi, j'y avais dit, si vous voulez quelqu'un de très technique là, dans tel domaine là, pointu,
mm-hmm.
arrêtez tout ça là, engagez-moi pas. J'ai dit, si vous voulez un homme orchestre, par contre, quelqu'un qui est capable de travailler en ressources humaines, qui est capable de travailler en finance, qui est capable de travailler en immobilier collectif, qui est capable de faire de la représentation, qui a un sens politique, j'ai dit ça, là, c'est toutes ces qualités-là vont être mises à contribution dans le rôle que je vais jouer bien humblement avec vous autres. Fait que, mais si vous attendez à avoir un expert, mettons, en, je sais pas moi, en RH pour mm-hmm. gérer votre organisation, ben, vous n'avez pas le bon gars.
C'était génial, ça. Mais je me doutais de la réponse. Après avoir entendu...
mais ce qui était intéressant, c'est avoir pas juste le A, B, C, parce qu'on savait que c'était C, mais c'est avoir tout la ce qui réponse. Vient avec comme réponse.
Ouais.
Merci beaucoup, Tommy Théberge, d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris le temps dans ton horaire pour venir nous parler de ton parcours, de ta déficience visuelle, mais aussi de nous inspirer avec tout ce qu'on peut aller chercher là, en devenant, autant au côté entrepreneurial que... aussi politique, municipale, mm-hmm, etc. Mm-hmm.
Puis on se rend compte que ce n'est pas les limites qui nous définissent, mais ce qu'on choisit d'en faire. Merci, Bianca, pour en fait, ton regard et tes explications qui nous aident toujours à mieux comprendre. Merci à notre beau et gentil Mathieu Tessier qui me fait des grimaces en ce moment. Mathieu, à la mise en onde, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un prochain épisode de Y voir clair.
Merci.
Merci, Tommy. Merci Bianca. Merci.